C'était une sorte d'île située entre la mer et les Tontos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez,
on y va.
Thierry Vrombay, bonjour.
Bonjour Yves.
Avec Racontez-nous votre recette, hein, je vous propose un entretien convivial pour notre plaisir, d'abord à tous les deux, et surtout, nous l'espérons, pour le plaisir des auditeurs de Radio Divergence. Thierry, vous êtes sétois, pur sucre, si je puis me permettre, parce que vous êtes passionné par la mer. Et puis, un sétois pur jus aussi, parce que vous êtes, je crois, passionné par l'aventure. Dès 14 ans, vous avez pris l'envol d'un voilier. Mais alors, pourquoi êtes-vous revenu à terre ?
C'est une longue histoire, mais avant de revenir à terre, j'ai longtemps navigué. Et un jour, alors que j'étais capitaine sur un gros yacht à moteur, j'étais en Grèce et pour l'anniversaire de ma fille, hein, c'était en 2000, je l'ai appelée au téléphone et je lui ai demandé « Margot, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Et là, elle m'a répondu du tac au tac « Papa, je veux plus que tu t'en ailles. » Et du coup, il y a eu un blanc et puis je lui ai dit « Bon, mais d'accord, je vais changer de métier. » Et j'ai arrêté de naviguer, et c'est là où j'ai créé mon entreprise.
Ah, ça c'est une belle histoire. Alors. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ?
Aujourd'hui, elle aura 35 ans.
Et elle avait quel âge à ce moment-là ?
10 ans.
10 ans. Ah, c'est une belle histoire, ça.
Et oui, parce qu'elle est née le 30 juin, et donc je n'étais jamais là pour ses anniversaires.
Eh oui, d'accord. Oui, oui, parce que vous naviguiez.
Oui, à l'époque, j'étais... Donc embarqué sur un yacht et en tant que capitaine, et je partais de début mai jusqu'à fin septembre.
Ah d'accord, et donc vous avez, mais enfin quand même, vous n'avez pas sacrifié totalement votre passion à votre fille.
Oui.
Ah si, vous avez plus, après vous n'avez plus navigué.
Alors, mais non, après j'avais plus le temps. Et maintenant que je suis à la retraite, j'ai un peu repris. L'hiver dernier, j'ai refait une traversée de l'Atlantique à la voile. Et puis j'ai un petit bateau maintenant et je reprends. Mais je n'ai pas acheté de voilier à ma retraite, sinon je serais reparti.
Oui, mais après, maintenant votre fille pourrait tolérer.
Oui, mais ma femme serait plus difficile.
Non, mais en fait, vous êtes prisonnier des femmes alors.
Oui.
Ah, vous dites ça. Puisqu'on parlait de cette tout à l'heure, c'est comme disait Brassens, hein, quitte à se pendre, quitte à trouver une corde, autant choisir la bonne corde. Mais quand même, alors parlez-moi un peu de ça. Là, hein, qu'est-ce qui vous fascinait dans ce que vous avez abandonné ?
Ah ben, moi, c'était le goût de l'aventure. J'adore la mer. Vraiment, je suis... j'adore aussi la campagne, la nature, mais en mer, c'est où je suis vraiment bien.
Oui, mais pourquoi ?
Surtout quand il y a un peu de vent.
Qu'est-ce que ça a de particulier ? Je veux dire, une partie des gens peut penser qu'on s'enquiquine au bout d'un moment. C'est toujours la même chose.
Il y a des gens pour qui c'est difficile, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui s'ennuient.
Ben oui, qu'est-ce qu'on fait sur rien ?
Rien, mais ici on admire la mer, les vagues, le ciel, les étoiles, c'est une liberté vraiment, surtout à la voile.
Alors parlez-moi un peu de la voile. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de yacht, c'est ça, un moteur ?
Oui.
Alors, mais à la voile, c'est quand même autre chose.
Totalement. La voile, on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Un yacht à moteur, on sait à quelle heure on part, on sait à quelle heure on arrive, où que l'on
aille. À peu près, oui.
Oui, c'est rare qu'il y ait des gros contretemps, bien que ça arrive, quand il y a vraiment du gros temps.
Pourtant, je croyais quand même que les météos marines pour les marins sont fiables.
Oui, mais quand on navigue plusieurs jours, qu'on fait des grands trajets, la météo, surtout en Méditerranée, peut changer du tout au tout.
Oui, c'est vrai.
En quelques heures.
Bon, ben, je vais vous titiller un peu, puisque vous dites que vous aimez bien l'aventure. Alors, vous allez nous raconter quand est-ce que vous avez eu peur une fois. Ça vous est arrivé?
Peur vraiment.
De se dire, qu'est-ce que je fais là?
Non, de me dire, ah, là, ça craint, il faut vraiment qu'on se bouge si on veut s'en sortir. Mais toujours avec un côté confiance et non, on va s'en sortir.
Ah, d'accord, parce que moi, je sais, j'ai une amie. Mmh. Qui un jour, avec son mari, eux deux ont loué un bateau à Marseille, je crois, et lui sait se servir d'un bateau à voile. Mmh. C'était pas un 5-5 ou un dériveur, c'était déjà un bateau un peu plus costaud. Et ils sont partis. Et au large de Marseille, un peu plus loin, ils ont essuyé un coup de vent, mais brutal. Et je me rappellerai encore cette dame me racontant, Yves, je ne suis pas croyante. J'étais à genoux et je disais, mon Dieu, s'il vous plaît, qu'est-ce que je fais ici? Aidez-moi.
J'ai eu la même expérience. C'était dans le. Alors je vais dire nos débuts parce que c'était avec mes amis qui ont débuté vraiment la navigation hauturière. Sur un vieux gréement construit en 1912, un pilote de la Gironde, et qui était vraiment un très beau bateau, gréement aurique, lourd, un peu difficile à manœuvrer, mais un bon bateau. Et c'était le 11 avril 1972. On s'est pris un coup de mistral au large de Farama, donc en pleine vallée du Rhône, force 11, il y avait 110 km/h de vent. Et on a failli y rester, perdre le bateau. On est rentré, on a dû faire un demi-tour parce qu'on revenait de Marseille, on allait sur 7. Et on a dû faire un demi-tour, retourner sur Marseille. On est arrivé sur Marseille, on avait 20 cm d'eau au-dessus des planchers, en ayant passé la nuit à deux à se relier à la pompe pour essayer de faire sortir l'eau qui rentrait plus vite que ce qu'elle sortait.
Oui. Parce que s'il ne suffit pas d'affaler les voiles pour que ça s'arrête.
Hein. Ah ben, là, de toute façon, on ne pouvait plus porter de toile.
Ah oui.
Le tourmentin que l'on avait éclaté et était parti en lambeaux. Et donc, on revenait doucement au moteur, un petit moteur. Et voilà. Mais ça a été ma plus. Expérience la plus dangereuse en mer et la plus forte.
Et le plus beau moment que vous avez connu en mer?
C'est celui-là.
Ah, c'est marrant, ça. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Oui,
et c'était magnifique. Il y avait des creux énormes avec des déferlantes tout autour. Et l'eau était phosphorescente.
Ah oui, c'était la nuit.
Oui, c'était de nuit.
Ah oui, ça devait être magnifique.
Ouais. Et on a tous eu, on s'est fait la même réflexion, qu'est-ce que c'est beau.
Ah ben oui.
Mais sans oser le dire aux autres.
Oui.
Parce que c'était quand même un moment, entre guillemets, dramatique.
Ah oui, alors je ne sais pas, moi, parce que il se trouve que je connais, parce que ça m'est arrivé assez souvent de me baigner la nuit, et je sais ce que c'est que l'eau phosphorescente, je sais comment moufler, je m'amusais à courir dans les vagues, et qu'il y avait une pluie, parce qu'elle est presque toujours phosphorescente la nuit, mais plus ou moins. Et j'imagine qu'une mer déchaînée, comme vous le racontez, phosphorescente, ça doit être génial. Mais en même temps, si on a les chocottes, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas simple. Bon, alors on va faire une petite première pause. Dites-moi Thierry, c'est mon petit jeu habituel avec tous mes invités. Si Sète était un lieu de vie, ça serait quoi?
Un nid.
Comment?
Un nid.
Un nid. Ah, un petit, un gros ?
Un petit nid, tranquille.
Un petit douillet. Nid, tranquille. Ah, ça, c'est mignon, alors. Ah oui, un petit nid douillet.
Oui,
très douillet. Nid douillet. Si c'était, comment dire, si c'était le comment, je ne trouve plus mon mot. Voilà, si c'était un fruit.
Le fruit de la passion.
Le fruit de la passion. Un outil.
Un rabot.
Ah, un rabot, c'est joli ça. Un acrobate.
Un voltigeur.
Ouais, ça va bien. Une voile.
Un spi.
Un spi. Et si c'était une musique?
Du Mozart.
Et quoi de Mozart?
Le concerto pour clarinette.
Ah, pour clarinette, hein. Oui, oui, c'est vraiment... Et pourquoi vous choisissez le concerto pour clarinette?
Parce que c'est une musique très douce, très, qui va très bien avec sur l'eau quand on part.
Alors, si je puis me permettre, c'est lequel mouvement? L'adagio ou le moment lent ou non?
Lent.
L'adagio,
oui,
alors.
Oui, oui.
Donc là, l'adagio du concerto pour clarinette de Wolfgang Amadeus Mozart. Bon, c'est un peu dommage d'arrêter cette si belle musique. Alors, merci de ce plaisir, j'espère, pour les auditeurs, en tout cas pour moi aussi.
Toi, ça,
pour moi aussi, parce que c'est vraiment une musique magnifique. Oui, allez-y.
Par vent arrière, pleine lune sur l'océan, une mer un peu formée, c'est magnifique.
Ah, alors ça, c'est marrant que vous disiez ça. C'est un rêve, moi j'ai... Je n'ai jamais navigué. J'ai fait un petit peu de dériveur sur la Gironde. Vous parliez de Gironde. J'avais des amis qui savaient naviguer, qui m'ont emmené. J'ai fait un peu du rappel avec un peu de vent. C'est très agréable. J'étais jeune, tout allait bien. Quand on a voulu me mettre dans un bateau, j'ai dit je peux pas parce que je me cogne partout. Je suis trop grand. Rien n'est fait à ma taille. Et mon rêve... Et je ne le ferai jamais parce que maintenant j'ai plus l'âge. Mon rêve aurait été d'avoir un hamac suspendu entre deux mâts. Et j'imagine avec la lune dans un hamac en train d'écouter Mozart. Et je pense que là, ça vaut quand même son paquet de cacahuètes.
Oui. Surtout avec une mer un petit peu formée où là, ça balance bien.
Ah ouais, ouais, ouais. C'est... Ah oui, oui, bon, c'est une très, très, très belle musique. Bon, alors, quand même, Thierry, alors, vous avez été triste d'arrêter, d'obéir à votre fille d'abord et à votre femme après?
Alors,
c'est pas obéir. Hein,
ouais, mais, ça faisait 10 ans que je travaillais sur les gros yachts à moteur. Ça commençait à me peser un peu de devoir partir 6 mois de l'année où j'étais vraiment absent et 24 heures sur 24 à bord. Parce que c'est une responsabilité et on ne peut pas laisser le bateau comme ça n'importe où.
Oui, et alors attendez, j'ai bien entendu tout à l'heure, c'est un yacht, c'est un bateau à moteur.
Oui.
Il n'y a plus de voile là.
Là, il n'y avait plus de voile.
C'est gros, c'est...
C'était gros, oui. À l'époque, c'était parmi les plus gros, quoi. Sur le Languedoc-Roussillon, c'était le plus gros.
Et ça a transporté des passagers ou c'était des trucs privés?
C'était un bateau privé, oui.
Comment?
Privé.
Ah, il y a des gens qui peuvent se payer ça.
Et aujourd'hui, c'est un petit bateau. Aujourd'hui, ce type de bateau, d'ailleurs, on en a quelques-uns. Il y en a notamment un 7 qui fait pratiquement 100 mètres de long. Moi, il faisait 33 mètres. Ah. Donc, c'était déjà, mais dans les années 90-2000, c'était une grosse unité.
J'ai vu à Sainte, hein, sur le bout du quai, qui est le long d'un gare, là, il y a des bateaux avec un seul mât, mais qui ont des mâts qui sont prodigieusement hauts. Et je me suis toujours demandé si c'était des bateaux de course ou...
Oui.
Ah oui, mais ils ne sortent pas, jamais, si, de temps en temps.
Ah ben, si, quand alors quand il y a un seul mât très haut, c'est des bateaux de régate. Hein, et, mais sur sept, il y a du côté de la gare, peut-être.
Oui,
oui.
Il y en a trois côte à côte, dont un qui a un très très grand mât. Ouais. Voilà. Oui, d'accord, donc vous en aviez un peu marre quand même.
Mais, oui, surtout que il y avait un nouveau copropriétaire, parce qu'à l'origine, sur ce bateau, il y avait un propriétaire avec qui je m'entendais très bien. Et à un moment donné, il s'est associé à un autre, il a vendu la moitié des parts du bateau, et ce nouveau propriétaire n'était pas des plus sympathiques.
Ah oui, d'accord.
Donc je ne m'entendais pas trop avec lui. Donc,
Donc vous avez joint l'utile à l'agréable, vous avez fait plaisir à votre fille, et puis vous avez arrêté un truc qui commençait à vous peser un peu, quoi.
Oui.
Voilà. Et alors, dites-moi, votre amérissage, on dit ça ?
Oui.
Alors, ça s'est passé comment ?
Ouais, j'ai pris une première année tranquille pour me remettre de tout ça. Et puis, j'ai créé, je me suis lancé dans le bâtiment parce que c'était ma deuxième corde à mon arc.
Ah oui ?
Parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Pourquoi ?
Mon père était entrepreneur dans le bâtiment.
Ah,
donc,
il était sétois, oui, vous étiez sétois, c'est ça, oui.
Et j'ai toujours travaillé dans le bâtiment quand j'avais besoin de gagner de l'argent entre deux voyages. Parce qu'au départ, quand je faisais de la voile, c'était pas payé.
Ah, c'était pas payé ?
Non.
Vous étiez nourri, logé ?
Alors.
Et encore ?
Non, mais c'était avec des amis, c'était avec un bateau stop ou avec mon propre bateau ensuite. Et là, j'ai été skipper sur des voiliers aux Antilles.
Ah,
alors,
oui.
C'était chichement payé.
Ouais.
Et sur, il n'y avait pas de statut à l'époque.
Eh oui, c'est surtout ça. Ouais, ouais. Ouais. C'était, voilà.
Alors que sur les yachts à moteur, on était nettement mieux payé.
Et ça n'a rien.
Et il y avait un statut, on cotisait à l'ENIM.
Voilà, c'est ça, oui. Skipper, non.
Ouais.
Voilà, oui. Et donc, vous avez continué le travail de votre père.
Alors, pas tout à fait. Enfin, j'ai repris différemment. J'ai commencé tout seul comme artisan, menuisier. Et puis, sur les bateaux, j'avais appris la mécanique, l'électricité, les soudures. Donc, je me suis lancé en multiservice.
D'accord. Et pourquoi alors ça m'évoque plein de questions. Et pourquoi pas vous auriez pu vous lancez dans une entreprise de mécanique concernant les bateaux. Pourquoi pas les bateaux ?
C'était plus simple pour moi, le bâtiment. Ça a coulé de source.
D'accord, oui, en raison de votre père.
Oui. Oui, mais parce que j'ai beaucoup travaillé dans le bâtiment. Et que, donc, je connaissais bien la menuiserie, l'électricité, et puis la plomberie, c'était facile.
C'est une autre aventure que la mer, ça.
Totalement, oui.
Avec des hauts et des bas. Plus de hauts, plus de bas.
Les deux.
C'est
une roue permanente. Parfois, on est en haut, des fois, on est en bas.
Est-ce qu'il y a des coups de tabac aussi ?
Aussi.
Et des calmes plats ?
Aussi.
Ce serait rigolo de raconter une histoire sur le bâtiment comme si c'était un bateau. En fait, une entreprise, ça a quelque chose, d'un bateau.
Ouais, si on veut, on peut.
Un peu quand même, non ?
Bah, ça bouge moins quand même.
Ouais, ça bouge moins. Oui, c'est un peu plus. Une fois que c'est bien établi, c'est stable.
Et on ne voit pas beaucoup de pays.
Oui, mais vous rencontrez des gens.
Oui.
Alors dites-moi, vous avez rencontré. Les gens, ils sont plutôt. Alors, ce sont des clients. C'est plutôt sympa, c'est plutôt pas sympa, ils sont râleurs, comment ça se passe ?
Alors, il y a des clients qui deviennent des amis.
Oui.
C'est, et le fait, moi, d'avoir beaucoup voyagé, il me semble que ça m'a donné une certaine ouverture à l'autre, à l'étranger, et d'avoir parfois un contact facile.
Oui, oui, ça c'est bien. Ouais. Oui.
Et j'avais une clientèle aussi anglophone, parce que je suis un des rares chefs d'entreprise
à parler anglais.
À parler anglais.
Ah bon?
À peu près correctement.
Ah, et vous avez appris ça comment, sur le bateau?
Mais en voyageant, oui, ah, sur les bateaux.
Oui, sur les bateaux.
Et quand on est capitaine, on communique en anglais avec les ports.
Oui, bien sûr. Puis aussi, oui, c'est comme les pilotes d'avion, c'est la langue technique internationale pour le voyage.
Exactement.
C'est ça, donc les avions, c'est avec les tours de contrôle, et je suppose que pour les bateaux, c'est parce qu'on arrive dans un port, Et puis on suit les instructions, on peut pas rentrer n'importe comment. D'ailleurs, ça me fait penser une chose que j'ai souvent raconté, que j'ai fait une fois avec un copain un truc que j'oublierai jamais. C'était un petit bateau, un dériveur, et on est rentré dans le port de La Rochelle. Je ne sais pas si vous connaissez le port de La Rochelle.
Un petit peu.
Les quatre sergents, deux tours, et on est rentré. Et ça m'a fait une impression, je me disais, la ville est à moi. Le fait de passer ces deux portes le bateau, on avait l'impression qu'elle était offerte, qu'elle ne pouvait pas résister. Mmh. Et je me dis, je comprends qu'il y avait des tours pour empêcher que les bateaux arrivent. Alors dites-moi Thierry, je vais vous poser les deux dernières questions que j'aime bien poser à mes invités. Quand vous êtes triste, vous allez où à 7?
Sur les rochers, le long du Mol.
alors attendez, vous allez me la faire aussi, ça... et quand vous êtes gay? Répondez pas pareil Thierry.
Quelque part sur la plage. Au pied du pin parasol planté sur la plage de la Corniche.
Ah d'accord. Là où on aurait dû enterrer Brassens.
Là où, oui, effectivement.
Et pourquoi on ne l'a pas fait?
Ah, parce que d'abord, on n'enterre pas les gens comme ça sur la plage.
Ouais, mais enfin,
qu'il ne l'a pas demandé, si ce n'est que par la supplique, où c'était juste une boutade.
Ah, c'était une boutade. Ah, moi, je pensais que c'était vrai, qu'il avait vraiment souhaité ça.
Non, non.
Non, ah, non, c'est dommage. Parce que c'était une... D'abord, la chanson est très belle. Vraiment très très belle, et en plus j'aurais trouvé ça un bel hommage de Sète à ce poète qui soit réellement enterré là sous un pin, voilà. Ah oui, donc
pour la petite histoire, j'ai planté ce pin en 2001 pour l'anniversaire des 20 ans de sa mort.
Ah, ça s'est pas fait à l'origine.
Non.
Ah, d'accord.
Moi, quand il est mort, j'étais aux Antilles,
oui,
en 81. Et là, en 2001, j'étais à 7, et avec l'association La Baleine Verte.
Maintenant, il y a une baleine rouge à 7, et il y avait une baleine verte.
Hein. La baleine verte était bien antérieure à la baleine rouge.
Oui, oui, mais... est-ce que c'est vrai? Oui, je crois que oui, quand même, que... la baleine soit un peu emblématique de Sète à cause du Mont-Saint-Clair.
Oui, qui ressemble à un cétacé vu du large.
C'est ça. Ah, donc, vous avez planté ça pour les 20 ans, avec une association, La Baleine Verte.
Oui.
D'accord, pour fêter...
les 20 ans de la mort de
Brassens. Les 20 ans de la mort de Brassens.
Et pour lui rendre hommage, en plantant un pin parasol sur la plage de la Corniche.
Oui, c'est ça, d'accord.
Comme dit dans sa chanson.
Oui, ce qui est un bel hommage, hein, parce que le pin parasol est aussi un très très bel arbre.
Oui.
Hein, voilà, donc j'espère que votre geste, fera plaisir à l'ombre, enfin au mâne de Brassens, et que à son ombre, de belles naïades viendront se reposer. Mais dites-moi, puisqu'on parle de Brassens, vous l'avez connu?
Non.
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 Parce que j'ai l'impression que son histoire avec Sète n'est pas si simple que ça. indépendamment du fait qu'on l'ait accusé de tort ou à raison, je ne sais rien. C'est pas ça.
Oui.
Oui, c'est bon, ça c'est...
Il a fait une bêtise d'adolescent, on va dire.
Il était adolescent, quels sont les adolescents qui ont jamais piqué, enfin bon, voilà. Mais même après, parce qu'aujourd'hui tout le monde est là, Brassens, mais j'ai l'impression que les relations de la ville, entre la ville et lui, n'ont pas été toujours, même du temps de son vivant, n'ont pas été toujours aussi claires et aussi belles qu'on veut bien le supposer.
Mais c'est que, à son époque... un tel déshonneur sur une femme, et parce que ça a été vécu, ça a été dur.
Ah, d'accord.
Et il a quitté Sète à la suite de ça, et il a mis longtemps avant d'y revenir.
Ah, d'accord. Donc c'est moi qui sous-estime, parce qu'en fait, ça va, c'est pas une catastrophe nationale. C'est pas le maire de Sète, enfin, si je puis dire. C'était le maire de Sète, le malheureux, je m'acharne pas sur lui, mais bon, il est dans l'actualité. Mais je veux dire, c'est pas un adolescent, donc ça va. Mais Brassens, s'il était jeune, enfin bon, c'est pas une catastrophe nationale. Mais à cette époque-là, c'est vrai qu'on plaisantait pas avec ça.
Oui.
Et donc sa famille a du mal à le vivre.
Exactement.
Et la ville aussi.
Sauf son père qui a été très digne à ce moment-là, puisqu'il y a fait une chanson. Où il parle de les quatre bacheliers.
Oui.
Et où c'est son père qui est venu le chercher au commissariat, et au lieu de le réprimander, de l'engueuler, il lui a offert il a présenté sa blague à tabac.
Ah là, oui, donc d'accord. Oui. Oui, donc l'air de dire il avait un certain respect pour son fils.
Oui.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est toi qui n'ont pas, pas apprécié sa famille. Lui, il l'a un peu entouré,
voilà,
si je comprends bien. Et c'est la ville.
Voilà, la ville, enfin, la ville, c'est un bien grand mot.
Oui.
Mais certainement les gens de son quartier, les gens qui le connaissaient. Parce que sur une ville comme ça, à cette époque-là, s'il y a un dixième de la ville qui connaît la personne, c'est déjà énorme.
Oui, c'était dans le quartier haut, je crois.
Non, dans la rue Barbus. Aujourd'hui, Henri Barbus, et le haut de la rue s'appelle Georges Brassens, maintenant.
Oui, maintenant. Bon, il sait bien...
Mais c'est le quartier des puces.
Oui, il a bien pris sa revanche.
Ah, ça, oui.
Bon. Eh bien, sur ces belles paroles, Thierry, je vous remercie de cette demi-heure qu'on a passée ensemble.
Mais avec grand plaisir.
Je vous remercie de Mozart, c'est tellement beau cette musique, et puis de nous avoir fait goûter un peu les parfums de la mer et de l'aventure. Merci Thierry, bonne chance pour la suite.
Mais avec grand plaisir, et peut-être une prochaine.
Pourquoi pas.
C'était une sorte d'île située entre la mer et les tantôt.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre set.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.